Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co. À Afen & Co, la collégiale de la FEN, on en est aujourd'hui au numéro 323 et on va aborder un sujet de fond, un sujet qui est souvent récurrent, latent, on ne sait pas bien comment l'aborder en entreprise, c'est le bonheur, le bien-être, l'optimisme, comment faire des belles choses en entreprise, et puis est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de s'en occuper? On a, depuis le début du siècle, on a créé, venu de cette mode américaine des Chief Happiness Officers, est-ce que finalement, comment est-ce qu'on peut faire entrer ces fonctions dans l'entreprise en général et surtout et particulièrement dans la formation, comment est-ce qu'on forme au bonheur? Est-ce que ça a du sens même? Et pour ça, il nous fallait une personne émérite dans le domaine qui est conférencier de l'optimisme, Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Stéphane, comment vas-tu?
Très très bien. Eh bien, Jean-Philippe Ackermann, que vous pouvez interpeller, que vous pouvez voir aussi dans les médias, sur des masterclass ou des choses comme ça, va nous parler du bonheur. Mais finalement, on dit bonheur, bien-être, optimiste. Finalement, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité?
En fait, l'optimisme est une émotion et le bonheur est un état d'être. Ça veut dire, ça c'est complètement différent. Ça veut dire une émotion, je vais la provoquer, je vais faire en sorte que elle me fasse du bien. Alors, je voudrais tout de suite différencier le bonheur de l'optimisme par un exemple. Moi, j'ai 27 ans quand je reprends une entreprise et j'ai pas de compétences managériales, j'ai absolument aucune compétence et on me confie une société. Bon, je te passe l'historique, hein. Et on confie une société de 75 salariés et j'ai jamais managé une société, je sais pas
Ouais,
faire.
c'est un vrai challenge.
Donc voilà. Et donc c'est particulier. Et en fait, j'ai une conviction très forte. La conviction très forte, c'est la conviction du bonheur. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 21 ans, j'ai fait ma première rencontre avec la mort et j'ai compris à 21 ans, c'est ce que j'appelle ma révélation, hein. J'ai compris à 21 ans qu'on vivait qu'une seule fois, qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour, ce qui est dit est dit, ce qui est fait, et que notre espérance de vie était limitée autour de 30 000 jours. Donc à 21 ans, j'ai pris une décision qui était d'être heureux le reste de ma vie. J'ai pris cette décision mûrement réfléchie, sans savoir réellement ce que ça voulait dire. Bon, aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Je peux te dire et à tes auditeurs que le bonheur, c'est un choix, et ce choix permet
Très
la
bien.
résilience, le rebond, la réussite. Quand j'arrive dans
Est-ce
cette...
que, justement, juste pour aborder ça en amont, est-ce que c'est un choix ou est-ce que finalement on est programmé pour ça?
Ah, non, on n'est pas programmé pour ça. Je dirais même qu'on est programmé plutôt pour le malheur.
Ah, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment un choix dans ces cas-là. Absolument.
En fait, on a 60 000 pensées à peu près. Moi, je n'ai pas calculé, c'est les neuroscientifiques qui disent ça, et on aurait 40 000 pensées négatives, donc on est plutôt programmé pour le malheur,
Très
pour
bien.
se plaindre, pour ne pas être content. Et il me vient une citation de Alain, tu sais, le philosophe très connu, qui disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Donc
Ah,
on est
très
vraiment
bien,
plutôt
bravo.
programmé
Pardon,
pour...
je t'ai coupé dans ton histoire.
Voilà. Et donc, quand j'arrive dans cette entreprise, moi qui n'ai pas de compétences managériales, je me dis, mais après tout, et je suis le plus jeune de la boîte en plus,
Ah
hein,
oui, forcément, c'est bien.
et la société est en difficulté, et je me dis, mais après tout, ce bonheur auquel je me donne le droit d'accéder, si je le donnais à mes collaborateurs. Et donc, je mets en place à 27 ans un management dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, humain, etc. Mais je n'ai qu'un souci. Un souci, c'est que matin, il soit heureux de venir travailler. Et j'ai qu'un souci, c'est que le soir, il soit heureux de partir en disant on a fait un super job. Donc ça, c'est vraiment. Et je mets en place mais je t'assure, même encore aujourd'hui, pour mes clients, je mets en place le même type de management, de hyper responsabilité.
Autrement dit, quand tu reprends cette boîte-là, c'est pas le chiffre d'affaires qui est important,
Non,
alors que
non.
ça doit l'être,
Oui.
parce qu'à un moment, tu peux pas payer les salaires. Tu
Oui.
pars donc pas sur la peur, mais sur le fait de créer du bonheur.
Oui,
Ce
sur le
qui est
fait de
rare.
créer du bonheur, que les gens soient bien. Par exemple, je leur ai donné un budget à chacun, je leur ai donné 500, à l'époque c'était des francs, hein. Je leur ai donné chacun un budget de 500 francs pour être mieux dans leur cadre de travail et ils pouvaient le cumuler avec d'autres. J'ai fait
D'accord.
en sorte de passer 3 mois avec eux à les écouter constamment. Donc j'ai mis en place, j'ai mis l'intéressement au résultat, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en place de façon à ce qu'ils soient heureux le matin de venir, heureux le soir de partir. Et puis, la deuxième conviction que je me suis forgée, c'est que je me suis dit, si j'arrive tous les matins en faisant la tête, en étant négatif, en étant pessimiste, en disant que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver, je suis sûr des résultats. Et là, j'ai décidé de mettre en place l'optimisme dans l'entreprise. Et comment je l'ai mis en place? Je l'ai mis en place avec la constitution d'un projet qu'on a construit les 75 ensemble, puisque je t'avais dit que je les avais écoutés pendant plus de 3 mois. Ce projet d'entreprise, ce projet de développement, je l'ai après donné au banquier. Et le banquier a eu tellement confiance qu'il nous a ouvert des lignes de crédit. Et donc, tu vois, avec ces deux convictions, qui est donner du bonheur, que les gens soient bien, soient heureux au boulot, et mettre en face l'optimisme, on verra après la définition de l'optimisme, hein, mettre en face l'optimisme, en fait, en un an, on avait redressé une boîte.
Ah, très bien, en un an,
Et
c'est
après, donc là, j'avais 28 ans. Après, j'ai continué, j'ai continué. Alors après, j'ai appris à manager un peu quand même. Hein. Mais à 40 ans, quand j'ai quitté l'entreprise, de 75, nous étions passés à 350. Et surtout,
C'était une
j'avais
entreprise dans quel secteur? B2B,
dans
B2C?
la mutualité,
Ah,
dans les
mutualité,
assurances. Et
d'accord.
surtout, j'avais la fierté de verser tous les ans un équivalent de salaire, un équivalent de salaire, un équivalent d'intéressement de 3 mois et demi de salaire
Ah oui, bah
à
oui, bah
chaque
ça marche.
collaborateur. Voilà. Et ça marche. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne. Puis après, à 40 ans, j'ai ouvert une société de conseil. Et ça fait 20 ans que je donne du conseil avec toujours, 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 toujours. Et j'en ai fait une baseline qui est que la réussite de l'entreprise passe par le bonheur des collaborateurs et l'optimisme des dirigeants. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, tu vois, quand on me pose la question, mais est-ce qu'il vaut mieux travailler la performance, travailler le bonheur, l'optimisme, c'est un moyen pour la performance. Et dans mes conférences, c'est ce que j'explique, que l'optimisme donne la performance, le pessimisme ne donne pas la performance. Et la façon de voir le monde, parce que c'est ça l'optimisme, ça donne la performance. Et pour conclure sur ce petit chapitre sur le bonheur, moi j'aime bien les citations. Il y a une citation du docteur Schweitzer qui disait, ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. Et moi, je l'ai expérimenté toute ma vie en manageant les entreprises.
Très très bien. Alors bah justement, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence. On dit souvent que le bonheur en entreprise, c'est un concept très anglo-saxon, américain,
Oui.
alors que nous, on préférerait, et ça recoupe pas forcément les mêmes réalités, l'idée de bien-être, de QVT.
Oui, alors, c'est vrai que le bonheur, c'est quand même très personnel. C'est quand même très personnel. D'abord, je te dis, c'est un choix. Pour beaucoup, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Ça veut dire que s'il m'arrive des problèmes, je ne peux pas être heureux. Si dans ma famille, ça ne va pas, je ne peux pas être heureux. Si au boulot, ça ne va pas, je ne peux pas être heureux. Pour beaucoup, c'est une conséquence. Bon, pour moi, je sais aujourd'hui, parce que j'ai passé largement 21 ans, je sais aujourd'hui que c'est un choix. Et j'ai pris beaucoup de, excuse-moi l'expression, mais beaucoup de pêche dans ma vie, comme tout le
Bien
monde,
sûr.
hein. Et je sais que c'est parce que j'ai fait cette décision d'être heureux que chaque fois je me suis redressé. C'est pour ça que je parle de résilience et de rebond. Et je parle de réussite
Donc,
par.
ça serait plus une façon de regarder les événements. Par exemple, je suis viré, bah, c'est bête parce que je m'étais habitué, ou alors c'est génial parce que j'ai une opportunité, qui se dessine. Est-ce que
Non,
c'est
ça
un
c'est
peu ça?
l'optimisme. Ça c'est
Ah,
l'optimisme.
ça c'est l'optimisme, pardon.
Le bonheur, c'est de se dire que. Mais on n'est pas loin, Stéphane. Le bonheur, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, je suis heureux d'être en vie sur cette terre. Voilà,
D'accord, ah oui, très
c'est
bien.
ça. Quoi qu'il se passe. Après, il peut se passer beaucoup de choses. On voit les
Bien sûr.
bouleversements du monde actuellement. Hein. Mais je suis heureux d'être en vie sur cette terre parce que de toute façon, c'est qu'une fois. C'est qu'une seule fois. Et donc, je vais faire en sorte d'être le plus. Comment dire? Le plus heureux personnel, mais le plus heureux pour les autres aussi, donner du bonheur aux autres, etc. Et c'est ça le bonheur. L'optimisme, c'est différent. L'optimisme, c'est une vision d'avenir. Et là, je voudrais, puisqu'on est un peu dans l'aspect formation,
Bien sûr.
donner la différence qu'il y a entre positif, négatif et optimisme, pessimisme. Positif, négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. Ça veut dire que tes auditeurs, en ce moment, quand ils nous écoutent, certains peuvent dire, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est du bullshit,
Oui,
ce n'est
exactement.
pas mon truc à moi, etc. Donc, négatif. Et d'autres peuvent dire, ouais, c'est génial, ça me plaît, la définition qu'il donne, l'interview que donne Stéphane, ça me plaît, etc. Et positif. C'est une valeur d'interprétation de l'instant. J'aime ou j'aime pas, je suis bien, je ne suis pas bien, ça ne me plaît pas. Et donc, ça veut dire que dans une entreprise, j'ai le droit d'être négatif parfois quand ça ne me
Bien
plaît
sûr.
pas. J'ai le droit dans ma vie, quand j'ai des problèmes, quand on perd ses parents, comme j'ai perdu les miens il y a un an, d'être malheureux. J'ai le droit de tout ça. C'est une valeur d'interprétation de l'instant. L'optimisme et le pessimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. C'est est-ce que j'ai confiance dans le futur ou est-ce que j'ai défiance dans le futur? Est-ce que je crois que dans ce futur, je peux être un acteur ou je suis un spectateur? Est-ce que je pense que tout est foutu ou que mon action peut améliorer les choses? Est-ce que si je reviens dans l'entreprise, si je pense que tout est foutu, je ne mets pas en place le management que je fais. Je dis, c'est tant pis, on va limiter la casse, on va faire en sorte que le personnel, on le licencie du mieux possible, ou pas. Enfin, c'est ça, et de toute façon, tout est foutu. Tout est foutu, on ne peut rien
Mais ça
faire.
veut dire qu'on développe un management et un comportement qui consiste de protection, où on cède à la peur, et finalement, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je suis un manager paranoïaque. C'est-à-dire, je sais que ça
Exactement.
va tomber dessus, et donc je me protège. Et
Voilà.
ça marche parfois.
Alors, ce qui est important, là, dans ce que tu dis, Stéphane, ce qui est important, c'est donc c'est une façon de voir le monde. C'est une façon de voir le monde. Mais cette façon de voir le monde, et c'est ça exactement ce que tu viens de dire, cette façon de voir le monde, ma façon de penser le monde, elle va générer consciemment ou inconsciemment des actions pour me donner raison. Si je pense que tout est foutu, qu'on ne va pas y arriver, que je suis pessimiste, je vais consciemment ou inconsciemment mettre les actions pour me donner raison. Tu vois, je te l'avais dit, ce n'était pas possible. Hein? Alors que si je suis optimiste, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en place des actions pour me donner raison, donc pour réussir. Tu vois, je te l'avais dit, ça a été compliqué, mais nous avons réussi. Un exemple, moi je suis président de l'Association française des conférenciers professionnels. Et j'ai organisé lundi, ce lundi-là, lundi 4 mars, ça parle pas lundi pour pour les
Oui,
auditeurs,
c'est
mais
pour
pour
ça,
la vie
très bien, tu as bien
professionnelle,
fait de
c'est lundi
définir,
4
très bien.
mars. J'ai organisé pour le premier événement public de
D'accord.
l'Association française des conférenciers professionnels. On m'a dit, ça va être compliqué, etc. Et j'ai pris une salle de 300 places, un théâtre de 300 places. Pourquoi? Parce que le théâtre de 150 places n'était pas disponible. Donc on m'a dit, mais 300, ça va être terrible à remplir, etc. Et je dis, OK, d'accord, les gars. Et on a bossé. On était exactement 293. C'est ça l'optimisme.
Exactement.
C'est-à-dire que si j'avais écouté les gens qui m'avaient dit, ce n'est pas possible, un, on n'aurait pas fait l'événement. Deux, si on l'avait fait, peut-être qu'on aurait eu 50 personnes en ramant bien. Mais à partir du moment où j'ai mis de l'optimisme dans l'équipe, de l'optimisme dans l'association, chacun y est allé et on a atteint 293 personnes. Donc on a rempli la salle en fait. Et ça a été un événement extraordinaire. C'est ça l'optimisme, c'est croire au futur.
Alors, pour terminer sur les définitions, tu dirais le bonheur, c'est comme le bien-être. On parlait de QVT aussi.
Le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est les conditions qui sont autour de moi. Là, c'est vraiment les conditions autour de moi. C'est-à-dire, le bien-être, c'est vraiment une conséquence. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bien-être, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'effectivement, si moi, je suis mal managé, je ne peux pas être dans le bien-être. Si j'ai peur, moi, de voir mon N plus 1, si j'ai peur de lui parler, je ne peux pas être dans le bien-être. Si j'ai pas les, si l'entreprise ne respecte pas le droit du travail, je ne peux pas être dans le bien-être. Si l'entreprise ne respecte pas la convention collective, je ne peux pas être dans le bien-être. Si l'entreprise, elle me paye en dessous de ce qu'il devrait être payé, je ne peux pas être dans le bien-être. Les conditions matérielles de l'entreprise ne sont pas les conditions idéales pour travailler, je ne peux pas être dans le bien-être. On est d'accord. Donc je peux décider d'être heureux et en même temps, parce que c'est ma vie, parce que je suis avec ma famille, parce que je changerai de boulot si ça ne me plaît pas, etc. Mais je ne suis pas dans le bien-être. Donc le bien-être, c'est vraiment plusieurs paramètres. Pour moi, le paramètre essentiel du bien-être, c'est la relation avec son manager. Après, le baby-foot, ça, c'est du baratin. C'est pas parce que tu mets un baby-foot, un billard, des salons. Si t'es mal managé, t'es mal managé.
Surtout que dans le baby-foot, souvent le manager ne joue pas, mais il regarde les autres jouer. Et donc, ce qui crée un système.
Et tu n'avais que ça à faire.
Exactement, c'est ça. Raison.
Donc, tu vois la différence. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bien-être, c'est
Alors,
une conséquence. Et l'optimisme, c'est un choix sur le futur.
Comment tu fais quand tu as un regard sur le monde qui est triste à mourir? Est-ce qu'on peut former les gens au bonheur?
La question que je pose, est-ce que le pessimisme aurait empêché la guerre en Ukraine? Non.
Non.
Est-ce que le pessimisme a empêché le Covid? Non. Est-ce que le pessimisme empêche l'inflation? Non. Souvent, le pessimisme ne résout aucun des problèmes, mais au contraire, les accentue. Je crois, peut-être avec utopie, c'est possible. Mais je crois que si le monde était plus optimiste, le monde peut-être serait plus heureux. Si le monde avait plus confiance au futur, le monde peut-être serait plus heureux. Quelle est la situation française? La situation
Oui,
française.
mais alors quand on regarde, avant d'entrer dans cette situation, la
Oui.
façon de regarder, par exemple la pleine conscience, qui consiste
Ouais.
à regarder ses émotions pour être capable
Oui.
d'en changer, les méditations, quelles que soient un
Oui.
peu orientales, consistent à
Oui.
dire, bah, ce ne sont que des idées, que des regards. Si on se
Oui.
met en distance, dans ces cas-là, on peut ressentir différemment. Donc il y a des
Oui.
techniques, hein, qui sont derrière, bien
Ouais,
évidemment,
ouais,
dans les
ouais.
deux cas. Donc ça veut dire qu'effectivement, est-ce que pour changer son regard, comment est-ce qu'on fait? Si on est triste à mourir, on voit que tout le monde est méchant, que le monde est immonde, etc. Comment je fais pour moi changer et devenir un homme heureux, voire même le ravi de la crèche?
Mais déjà, mais tu vois, c'est une super bonne question que j'aborde dans une de mes conférences. On ne peut pas rendre heureux quelqu'un qui n'a pas envie d'être heureux. Ça veut dire que le premier point, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle aussi Fine soit la tranche, elle a toujours deux faces.
Oui,
Et
très
je
bien.
donne 10 clés de bonheur. Et la première clé de bonheur que je donne, c'est faire le choix. Tant que tu n'as pas décidé d'être heureux. Tant que tu n'as pas décidé d'être optimiste, si tu es pessimiste, tu ne le seras jamais.
D'accord.
Et je peux te dire, Stéphane, il faut que tu le sois, il faut que tu
Exactement.
le regardes, que le monde comme il est pas si mauvais que ça, il y a aussi du positif. Si tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de le voir.
Ce
Bien.
qui serait
Donc
encore
on
plus
me dit,
stressant, donc
ouais.
générateur
Donc
de
on me dit,
malheur.
alors c'est foutu dans
Oui,
l'entreprise. Je dis
exactement.
non. Si vous êtes optimiste, et le manager, pour moi, il doit être terriblement optimiste. Le dirigeant doit être optimiste, sinon tu ne crées pas ta boîte. Si toi, tu es optimiste, tu dois continuer à mettre en place des actions pour le bien-être, pour le bonheur, parler
Alors,
positivement,
avant
engager
de
les
rentrer
gens.
dans l'entreprise, si on reste sur la personne, et
Oui.
certains dans les neurosciences, certains pensent qu'on a une forte programmation sur l'optimisme, la résilience. Il y en a qui s'accrochent à des choses, qui tournent en rond, pour dire simplement.
Oui.
On a tous une dotation, que ce soit culturelle, naturelle, tout est bon.
Oui.
Simplement,
Alors,
on donne des cartes. Comment moi je fais pour être heureux? Je me dis, je veux être heureux. OK, c'est facile, mais pour de vrai.
ouais. Ah, je peux peut-être raconter l'histoire de mon père
Oui, très bien.
très rapidement.
Non, je t'en prie.
Mon père est quelqu'un de pessimiste, négatif, toujours en colère, etc., etc. Et à 87 ans, je te passe l'histoire, etc., très rapidement, mais à 87 ans, il a décidé de changer. 87 ans. 87 ans. Il est mort l'année dernière à 95 ans. Mais de 87 ans à 95 ans, on n'a pas eu le même père. C'est-à-dire on a eu un père aimant, un père plutôt patient, un père moins négatif, je dirais même plus positif. Et ça a donné des conséquences sur la famille de façon, je te laisse imaginer, de façon
Ah
extraordinaire.
oui, forcément.
Sur ma mère, sur ma famille, etc. Mais parce qu'il l'avait choisi. Qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a choisi? Il a dit, et en fait, il avait écouté une émission qui s'appelle C'est dans l'air, qui passe l'après-midi, et le thème, c'était le bonheur, il y avait Frédéric Lenoir. Autant, moi, je lui disais, tu peux être heureux, qu'il ne me croyait pas, mais qu'à partir du moment où Frédéric Lenoir l'a dit, ça, il l'a cru, quoi.
C'est ça.
Donc, tu vois, on n'est jamais à l'abri d'une bonne
Bien
surprise.
sûr.
Hein? Et il a cru, et je lui ai dit, mais ok, c'est bien, tu vas essayer d'être heureux, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire ce que dit Frédéric Lenoir, c'est-à-dire regarder le monde avec positivité, m'émerveiller sur les petites choses, avoir des paroles plus positives que négatives, quand je râle, m'arrêter de râler, etc. Bon, comme je dis en souriant dans ma conférence, parfois il y a eu des rechutes, mais ça a été un changement radical. Radical. Mais pourquoi? Parce qu'il l'a décidé. S'il ne l'avait pas décidé,
Oui, mais
tout le reste.
c'est parce qu'aussi il a rencontré Frédéric Lenoir. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des conférenciers comme toi dans ce que tu fais. Au bout d'un moment, on t'écoute. De toute façon, il faut des conférences, il y a des cycles dans les entreprises. On t'écoute et puis d'un seul coup, la rencontre se fait et on se dit, je suis prêt à m'engager.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est, si tu veux, c'est ce qui se passe souvent lors de mes conférences. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire,
Ah, monsieur.
mais c'est mon job. C'est qu'un conférencier, il est là pour faire changer l'auditoire par rapport à ses propres convictions. Bien. C'est pour ça qu'il faut que le conférencier soit quelqu'un d'éthique, hein, parce on
Bien
a un
sûr.
pouvoir quand même
Bien
sur
sûr.
les personnes. Hein. Donc, et c'est ce qui se passe, c'est souvent des personnes me disent, vous m'avez fait changer. Moi, j'ai encore une personne qui m'a écrit hier, qui m'a dit, merci d'avoir changé ma vie. Parce qu'elle était avec moi lors du TEDx que j'ai fait à Belfort, et elle était une personne qui passait sur scène. Elle m'a écouté, elle m'a dit, mais j'aurais jamais pensé voir le monde comme tu l'expliques. Et elle m'a encore écrit hier, ça s'est passé au mois de novembre, elle m'a dit, merci d'avoir changé ma vie. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle nous-mêmes quand on est manager. Moi, je reviens maintenant dans la formation, dans l'entreprise. Quand on est manager, quand on est dirigeant, moi, je dis qu'on a une triple responsabilité sur nos collaborateurs. Bien. On a une, et ça, il faut que les patrons le sachent, et puis les DRH qui nous écoutent en soient conscients aussi. La première responsabilité, c'est le pouvoir d'achat du collaborateur. Le pouvoir d'achat, c'est combien je le paye. Combien je le paye. Et ce pouvoir, et ma façon de le payer et le montant que je vais lui donner va engendrer là où il habite, va engendrer comment il prend les vacances, va engendrer comment il éduque ses enfants. J'ai cette responsabilité, mon chef d'entreprise. C'est pour ça que je milite pour l'intéressement au résultat.
Bien sûr.
On ne peut pas non plus surpayer les personnes, sinon c'est toute entreprise qui serait déséquilibrée, mais on peut donner de la récompense par
Absolument.
rapport à un investissement. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité sur la liberté. Pourquoi? Parce que tu sais bien que le droit du travail dit que les congés sont décidés par l'employeur. Bon, en fonction des contraintes de l'entreprise.
Bien sûr.
Mais si je fais aussi, si je suis plutôt libre, plutôt souple, etc., je vais donner plus de liberté que si je suis figé dans des modèles très stricts. Donc j'ai une responsabilité sur le pouvoir d'achat, j'ai une responsabilité sur la liberté, et j'ai une responsabilité sur la santé mentale. C'est-à-dire comment je parle à mes collaborateurs, qu'est-ce que je leur dis, comment je les considère, est-ce que je les considère avec humanité ou pas, ou est-ce que je les considère comme des pions? Donc j'ai cette triple responsabilité, et non pas sur le collaborateur, mais sur sa famille. Donc
Oui,
ça veut dire que moi, j'ai un pouvoir fou
mais comment tu fais savoir, tu parles de santé mentale.
Oui.
Tout le monde est d'accord, il vaut mieux être sympa que d'être désagréable. Mais concrètement, moi, je parle avec mes tripes quelque part, si je suis manager, je fais ce que je pense être bien, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Comment je sais si effectivement la personne le perçoit bien? J'avais un PDG.
Tu vas demander feedback.
Ah oui, mais dans ces cas-là,
Moi, quand je gère une entreprise, j'ai encore une entreprise, moi je vais souvent, d'abord, on a ce qu'on appelle l'entretien annuel. Qui doit pas être un entretien sanction, mais un entretien de progression. Bien. Mais l'entretien, on ne va pas parler aux personnes une fois dans l'année. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai des entretiens informels.
Bien sûr.
Je vois les gens, comment est-ce que mon management vous convient? Est-ce que comment je peux vous aider pour faire votre boulot? Ou se tutoie parfois, etc. C'est ça, à demander du feedback. Moi, si ma volonté, ma mission, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs soient bien, je leur demande si ce que je fais et s'ils sont
Oui,
heureux.
très bien.
Mais forcément, là, je te dis, je suis président d'une association régulièrement. Je demande aux personnes, est-ce que mon management vous convient? Est-ce que comment je vous parle, ça vous. Ou alors, c'est
Qu'est-ce
pas
qu'on
ta
pourrait faire
mission.
différent, etc. Très bien.
Ouais, hein. Voilà.
Très bien. Donc, avoir ce retour comme ça. Donc, ça veut dire aussi donner de la liberté aux collaborateurs. Dans certains métiers, le métier est tellement contraint que finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace de liberté. Quand on doit livrer de telle heure à telle heure, on a tant de temps pour livrer, il n'y a pas énormément d'espace de liberté. La contrainte est tellement forte que finalement, si on demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est un peu délicat, non?
Il y a parfois des boulots où il y a de la contrainte. Là, je
Oui,
te
on
suis,
comprend.
Stéphane. Mais il faut que j'explique la contrainte. Il faut que j'explique la contrainte, le pourquoi de la
Très bien.
contrainte. C'est-à-dire, souvent, on n'explique pas. On dit, c'est comme ça,
Oui,
etc.
exactement, c'est ça.
J'explique le pourquoi de la contrainte. Bon. Je reviens à la base. Je suis un dirigeant. Est-ce que dans ma mission de dirigeant, on parle de QVT, de tout ça, de RSE, etc. Bon, bah, quand j'ai fait tout ça, on n'en parlait pas.
Bien sûr,
Hein.
oui.
Mais est-ce que dans ma mission de dirigeant, j'ai une conscience assez forte pour penser que j'ai cette triple responsabilité sur mes collaborateurs, oui ou non. Si j'ai cette mission et si j'ai cette conscience, je ne peux pas. Si l'entreprise a des contraintes, elle a des contraintes.
Bien
La
sûr.
priorité, c'est quand même que l'entreprise se porte bien.
Ou faire en
Donc,
sorte que les collaborateurs voient différemment les contraintes.
C'est ça, exactement. Et je vais faire en sorte que les collaborateurs voient différemment la contrainte. Je vais pas leur dire il n'y a pas de contrainte. Non, non. Je vais expliquer la contrainte et je vais expliquer le pourquoi de la contrainte. Après, si je peux faire des aménagements, je fais des aménagements. Mais si je ne peux pas faire d'aménagements, je ne peux pas faire d'aménagements. Et c'est là où je dis aux collaborateurs, le bonheur est un choix. Si ça ne te convient pas, je conçois que tu puisses aller ailleurs parce que cette situation ne te convient pas, parce que cette contrainte ne te convient pas. Je conçois. Et tu sais, quand moi j'ai passé ma vie à redresser des boîtes. Donc quand on redresse des boîtes, on fait des plans sociaux. Il ne faut pas dire que j'en ai jamais fait, ça serait mentir, ça serait du baratin. Sauf que quand je faisais des plans sociaux, je les ai toujours faits, j'ai toujours essayé de les faire de façon humanité, avec Humanit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'envoyais pas un courrier en disant, et j'allais me cacher derrière en disant voilà la procédure, etc. Non, j'appelais chaque personne et je dis voilà,
Très bien.
je suis désolé. Et par rapport à l'entreprise aujourd'hui, je ne peux plus vous garder. Je ne peux plus vous garder. Donc l'entreprise, elle va vous remercier. Et donc, elle va vous remercier comment? Ça veut dire que vous avez donné beaucoup. Alors, je ne parle pas des gens qui font une faute. Hein. On est d'accord, ça c'est
Bien sûr,
différent. Hein. Et donc, on va travailler ensemble sur votre futur. Et je travaille avec des personnes sur des professions. J'ai offert des nouvelles professions à des personnes. J'ai offert des nouvelles formations à des personnes. À l'époque, ce n'était pas obligatoire tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais cette conscience que j'avais une responsabilité sur la famille et sur mes collaborateurs. Tu vois?
Donc
Voilà.
tu prends
Donc, ça veut
soin
dire
des
que
gens.
de la contrainte qui était que j'avais plus besoin des personnes parce qu'on avait des frais généraux trop élevés par rapport à l'entreprise que je reprenais, tu vois, j'étais obligé de le faire sans déséquilibrer le futur parce que tu sais que c'est facile de baisser les charges, hein, mais après, quand j'ai plus de charges, j'ai plus de ressources non plus. Hein.
Bien sûr. Oui, mais
Voilà.
alors comment tu fais dans des entreprises où l'histoire qui est importante, ce n'est pas que les hommes à un instant T, l'histoire est importante, les gens se sentent méprisés, dévalorisés, et
Oui.
donc ils se disent, ici on est pris pour des truffes, et dans ces
Oui.
cas-là, on leur dit, on va faire du management bienveillant. Ils
Oui.
disent, c'est bon, c'est encore un nouveau truc qui vient du
Ouais.
siège. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour créer quelque chose qui marche?
La première chose que je fais, et je fais toujours pareil, c'est que je fais avec eux. Ça veut dire que si le matin, tu sais, moi j'ai repris des entreprises où le matin ils commençaient à bosser à 5 heures, quoi. Hein.
Oui, très bien.
Ben, j'étais là à 5 heures avec eux.
Oui,
J'étais
très
là à
bien.
5 heures avec eux. Et je leur disais, vous m'amenez dans votre camion là? On va faire ensemble. Et c'est ça, la première chose à faire, c'est de faire avec eux. Et c'est de considérer que ceux qui font, c'est ceux qui savent. Et ça, c'est hyper important. Ceux qui font, c'est ceux qui savent. Donc, je vais comprendre leur boulot, connaître leur boulot, je vais voir les contraintes qu'ils ont dans le boulot et je vais essayer d'aménager ces contraintes. Et surtout, surtout, je vais leur parler avec, excuse-moi le mot parce qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui, mais avec bienveillance, quoi. Je vais leur parler comme on parle à deux humains. Je ne vais pas leur parler à un esclave, quoi, entre guillemets. Je ne vais pas leur parler à un pion. Je vais leur parler comme il faut. Je sais que ces gens-là, ils sont des responsables dans leur vie. Ils ont un couple, ils ont des enfants,
Exactement.
ils ont de l'éducation, etc. C'est pas des pions, quoi. C'est des gens qui savent. Et peut-être que dans le boulot, moi, en termes de stratégie, je sais mieux qu'eux. En termes de finance, je sais
Bien
mieux
sûr.
qu'eux, mais pas en termes de manuel. Je ne sais pas faire ça. Tu vois? Donc,
Tu parles d'homme à homme.
Je parle d'homme à homme et je vais comprendre, quand je suis avec eux dans le boulot, je vais comprendre leurs soucis. Et après, je leur dis, bah, tiens, on peut se voir de préférence dans un bureau neutre ou un atelier neutre, etc., etc. Ou dans le bureau, si vraiment c'est un peu plus officialisé. Mais toujours en cherchant à comprendre les personnes et laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de latitude. Fixer le cap, ça soit le cap, ben, on ne change pas le cap. Hein. On n'essaie pas de changer de cap, mais changer le chemin pour conduire au cap. Et le chemin, ben, ses collaborateurs, et ben, ils sont souvent les chauffeurs de ce chemin, quoi.
Ouais,
Et je dois prendre en
complètement.
compte. Voilà. Donc ça veut dire que je dois montrer l'exemple, ma façon d'être, ma façon de venir le matin, ma façon de partir le soir, ma façon de manager, ma façon de parler aux gens, les actes après, qu'est-ce que je leur donne? Je leur laisse la liberté de
L'émotion aussi que tu donnes quand tu
l'émotion.
expliques les choses pour leur dire que une contagion émotionnelle, c'est-à-dire tu leur dis il se passe un truc, on va y aller, on va réussir
Ouais,
tous ensemble. Est-ce que ça, c'est
oui.
important?
Alors, c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, moi je me souviens à l'époque, on disait l'émotion, tu les laisses à la maison, hein, ce qui était
Absolument.
faux. Ce qui était faux, c'est une émotion, tu la portes en toi, donc tu ne la laisses jamais à la maison, tu n'en parlais pas, c'est tout. Mais on sait très bien que ma façon de penser, si je reviens à ma façon de penser, est-ce que je pense pessimiste, négatif ou optimiste, positif? Ma façon de penser, elle génère des émotions.
Oui, bien sûr.
Elle génère des émotions, d'accord? Donc, je peux avoir, si je pense négatif, je génère des émotions qu'on appelle limitantes. sont ce qu'on appelle aussi des émotions de rejet. J'ai pas envie de te suivre dans ton projet. D'accord? Tu me parles mal, tu es irrespectueux, tu penses qu'à faire du reproche, etc., etc. Il n'y a jamais de récompense, jamais de considération. Moi, j'ai plus envie d'être dans ton projet. Si au contraire, je pense positif, optimiste, je vais générer des émotions qu'on appelle dynamisantes, ce qu'on appelle les émotions d'adhésion. J'ai envie de te suivre dans ton projet. Quand je reviens sur mon exemple
Ça
de l'événement qu'on a.
s'apprend d'être un manager inspirant.
Ah, moi, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris, si tu veux, c'est que peut-être que le fait que j'ai compris à 21 ans qu'on mourait, qu'on vivait qu'une fois, peut-être que ça m'a donné une conscience peut-être différente, je ne sais pas. Moi, tout de suite, j'ai compris, si tu veux, que le plus important, et ce n'est pas du baratin,
Bien
le
sûr.
plus important dans une vie, c'est l'homme, c'est l'humain, tu vois.
Oui, mais justement, dans ce que tu dis là, bon, grosso modo, la majeure partie qui entend ça, on dit c'est de la daube. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mots qui ont
Oui.
tellement été utilisés qu'ils sont
Oui.
démonétisés.
Oui.
Prendre conscience qu'on va tous mourir, c'est vrai que c'est un des problèmes de notre société, qui
Oui.
vit beaucoup dans le désir et qui se croit inconscient.
Oui,
Dans ces
oui.
cas-là, comment tu arrives? Alors après, c'est un discours personnel et qui est hyper intéressant parce que tu montres un chemin.
Oui.
On prend pas, mais comment tu industrialises ça pour toute une entreprise? Tu les rapproches de la mort?
Non.
Ce qui peut
Non,
poser des
mais,
problèmes techniques.
par contre, je leur parle un peu de philosophie quand même.
Ouais,
Tu vois,
d'accord.
même à un ouvrier. Moi, je me souviens une fois, quand même, je fais une conférence dans une mairie, on me dit, monsieur, soyez pas quand même, n'ayez pas des mots trop savants, parce que dans
Bien sûr.
l'assistance, il va y avoir les personnes qui font les poubelles. J'ai dit, mais madame, c'était la directrice des services, tu vois. J'ai dit, madame, mais je vais parler comme je parle à tout le monde. Et à la fin, ceux qui étaient autour de moi pour me poser des questions, c'était eux.
Exactement.
Donc, c'est ça, si tu veux, c'est de se dire que quelqu'un. Ah, c'est du baratin, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que moi, je ne l'ai
Parce
pas
que
industrialisé.
prenons un exemple
Je ne l'ai pas industrialisé, si tu veux.
d'industrialisation, la rhétorique à l'époque de Socrate, les gens de la rhétorique disaient, ce qui est important, c'est d'être capable de trouver une façon de présenter les choses et surtout de développer de l'émotion pour qu'il y ait de la contagion émotionnelle, si on reprend les termes actuels. Et donc, ça veut dire qu'on apprenait quand on était sophiste à avoir les bons mots, quitte à dire la journée suivante ou la semaine suivante le contraire, avec la même
Oui.
énergie, la même adhésion. Là, on peut industrialiser.
Oui. C'est leader. C'est leader.
Oui, exactement. Donc,
C'est
ça
leader.
s'apprend.
Et là, ça s'apprend. Là, ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle la prise de parole, c'est la rhétorique. Tout ça, ça s'apprend.
Bien
Tout ça,
sûr,
ça s'apprend. On peut apprendre les techniques. On
oui,
peut apprendre
absolument.
les techniques. Par exemple, moi, je me souviens à l'époque, j'avais mis en forme les cercles de qualité. Ça marchait très, très, très bien. Pourquoi ça marchait bien? Parce qu'il y avait un process qui donnait une responsabilité aux personnes.
Les cercles de qualité, globalement, après ça dépend des
Moi, ça a
entreprises,
bien marché, je peux te
mais
dire.
globalement, ça ne marchait pas très très bien, justement, à cause de ce problème-là. C'est que si on libère la parole sur des problèmes, il y a des méthodologies, sauf qu'effectivement, bah, les gens étant dans des cultures très différentes, c'est à la fin le chef qui avait raison. Alors qu'en principe, le
Non,
cercle de
mais
qualité, c'est l'inversion de la pyramide.
si. Attends, attends. Le chef, il a raison. Oui, si ce qu'on me dit est dans le projet,
Voilà,
pourquoi je
exactement.
le refuserais?
Exactement.
In fine, c'est toujours le chef qui donne la décision. Toujours. Oui, non. Toujours. Toujours. Là, au niveau de mon association, j'ai créé des comités opérationnels.
Très bien.
C'est-à-dire que j'ai comité opérationnel événement, j'ai comité opérationnel international, j'ai comité opérationnel communication, etc., formation, etc. Et à l'intérieur, c'est un peu mes cercles de qualité à moi. À l'intérieur, et les responsables forment le CODIR, le comité directeur. Bon, in fine, à la fin, c'est moi qui dis ça me plaît pas. C'est moi qui dis on n'y va pas. Forcément. Forcément. Sauf que si je donne le bon plan, la bonne direction, normalement, hier, par exemple, une responsable d'un comité opérationnel me dit, c'est très agréable de travailler avec toi. Je dis, ah bon, c'est sympa, pourquoi?
Bien
Tu dis
sûr.
toujours oui.
Ah,
Tu
très
dis
bien.
toujours oui. Mais pourquoi je dis oui? Je lui dis, mais non, je ne dis pas toujours oui. Je dis oui parce que chaque fois, toutes les propositions que tu me fais, elles sont dans le projet. Si demain, ce n'est pas dans le projet, je te dirai non. Donc, ça veut dire qu'il faut être clair sur le projet. Clair
Exactement.
sur le cap, clair sur la mission de l'entreprise. Voilà. Alors, moi, c'est ma façon de faire.
Oui, non,
J'ai
mais
pas un
et une
avis.
fois que les gens voient qu'il y a une direction, l'homme est un animal social, il a besoin d'être ensemble et d'être
Voilà.
respecté, comme tu le disais très justement. Maintenant, quand on doit créer, et si on ramène ça à de la formation, Est-ce qu'il existerait un référentiel en se disant, si on prend des managers, il y a énormément d'écoles, d'universités de management, etc. Comment tu fais pour qu'ils soient des agents de l'optimisme?
Je leur explique ce qu'est l'optimisme.
Déjà?
Et puis, avec une belle. Moi, tu sais, souvent on dit, mais donne-moi une citation d'optimisme. Moi, j'en ai trouvé qu'une citation, elle n'est pas de moi, elle est de Baden Powell. Et l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès.
Très bien.
Voilà. Et pour moi, c'est la meilleure des définitions. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté.
Et comme en
J'avais.
fait dans la formation, on est dans un monde de la compétence et des référentiels de compétences,
Oui.
concrètement, une fois que tu as présenté ton cadre, tout le monde est à peu près d'accord, il vaut mieux être sympa que d'être désagréable, enfin tout le monde
Oui,
sauf,
oui, oui.
enfin, sauf trois pervers, mais sinon voilà. Donc ça veut dire, une fois que tu as ça, c'est comment tu fais en sorte que les gens soient accueillants d'idées qui les gonflent alors qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'on leur met la pression. Comment est-ce qu'ils font concrètement?
J'ai quelque chose, si tu veux, qui s'appelle le PAO, le plan d'action optimiste.
Très bien.
C'est-à-dire que je fais travailler les personnes, je leur donne pas de clé, en fait. Je leur donne pas de clé.
D'accord.
Hein. On travaille sur la définition de l'optimisme, qu'est-ce que l'optimisme, les différences qu'il y a. J'ai aussi quelque chose que j'appelle le chemin du succès. Enfin voilà, j'ai quelques. Et je les fais travailler sur le plan d'action optimiste. Ça veut dire que pendant à peu près 20 minutes, 20 minutes, ils vont travailler sur, par exemple, optimisme et management, optimisme et recrutement, optimisme et bienveillance, optimisme. Et là, je travaille avec mes clients. Et après, le client peut me dire, ben moi, mon souci aujourd'hui, c'est le management. On va faire optimiser le management. Mon souci aujourd'hui, c'est j'ai du mal à recruter. Optimise le recrutement. Bien. Et ça marche très, très bien. Pourquoi ça marche bien? Et donc, je les fais bosser pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, ils vont me donner des idées. Et les idées, je leur dis, je ne veux pas du yaka faucon. Je veux des idées concrètes.
Très bien.
Et ce qui est fou, Stéphane, c'est que je l'ai fait dernièrement pour une chaîne hôtelière. Mais c'est
Exactement.
inimaginable ce que les gens ont comme ressources eux-mêmes. C'est-à-dire que pour moi, le chef ne sait pas tout. C'est-à-dire il faut que le chef sache qu'il ne sait pas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Et en plus, mon métier de conférencier, c'est que je ne sais pas. Quand je vais chez du F nucléaire, je ne sais pas. Quand je vais dans la chaîne hôtelière, je ne sais pas. Bon, mais je vais apporter cette méthode que j'appelle le PAO, plan d'action optimiste, qui va permettre aux gens de construire des changements. Et à moi de faire en sorte que ça soit factuel et pas du yaka faucon pour que ça fonctionne derrière. Et là, j'ai un véritable plan qui peut se travailler.
Et c'est pour aller plus loin dans la mécanique, pour que les gens puissent s'en inspirer, c'est le fait de dire, une fois que tu as un plan d'action, tu fais une communauté optimiste, de
Oui,
façon à
oui,
dire
oui, oui.
le SAV, un truc comme
Oui,
ça.
il faut faire le SAV, bien évidemment. C'est toi qui portes le SAV.
Ouais, exactement.
C'est toi qui portes le SAV, si tu veux. Moi, je reviens maintenant sur cet événement. Pourquoi? Parce qu'il est 2 jours. Hein?
Bien sûr.
Pendant 3 mois, moi, j'ai délégué au comité opérationnel, événement, et j'ai jamais dit non. Ça aussi, c'est important.
Bien sûr.
J'ai recadré quand je devais recadrer parce que ce n'était pas dans le projet, dans ce qu'on souhaitait, etc. Mais je n'ai jamais dit non. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, qu'est-ce que je lis? Nous avons réussi. C'est-à-dire que les personnes du comité disent, nous avons réussi à faire venir 300 personnes, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés le projet. C'est ça l'optimisme. Et ça veut dire que délicatement, tranquillement, on rappelle le cap, on rappelle les projets, on donne les si on s'est fixé 300, on dit là aujourd'hui on est 50, bravo. Là on est 70, on continue.
Ça
Là on
permet
est
de
100.
maintenir la motivation,
Ça permet
absolument.
de maintenir la motivation. Mais
Et derrière.
c'est pas on est 100 et les gars on est en train de perdre. C'est on est 100, bravo, on
Exact,
est en train de
exactement.
progresser. C'est ça.
Exactement.
Alors je sais que c'est pas très universitaire ce que je dis. Mais
Non,
c'est de l'expérience de chef
ça
d'entreprise.
reprend beaucoup sur tout ce qui est intelligence collective.
Oui.
C'est-à-dire quand on libère les forces autour d'un projet qui est l'optimisme, dans ces cas-là, derrière tout ce suivi-là, au contraire, la littérature, encourage à aller dans ce sens-là et encourage à le faire ensemble et de rechercher. Parce que si
C'est
chacun
ça.
apporte sa contribution, si on le remet au collectif, ben, ça redonne de la valeur, même si, sociétalement parlant, on n'a pas d'avantage. Le fait de dire, voilà ce que j'ai fait, j'en suis assez fier. Ce qui est une émotion, j'en suis assez fier et finalement bah, je le donne aux autres, ça renforce encore et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Les autres m'aident à être motivés.
Et puis, il faut de l'humilité. Si je reviens sur cet événement, le comité opérationnel me dit, Jean-Philippe, tu ne parleras pas. Bon, ok, d'accord, je suis le président, tu ne parleras pas. Bon, ok. Pourquoi? Parce que timing, par tout ceci. Je l'accepte.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le gars qui est pas humble, comment, je suis président, je parle pas, non, je l'accepte. Et je l'ai tellement bien accepté, si tu veux, que ça a été une réussite sans nom, ça a été extraordinaire. Et qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que le projet aboutisse. Je veux pas, moi, forcément être sur scène.
Oui, bien sûr.
Je veux pas. Et donc, il faut savoir faire preuve d'humilité, de se dire, OK, je suis pas sur scène, c'est pas le problème, c'est pas moi qui prends la parole aujourd'hui, c'est pas le problème.
C'est peut-être une tendance sur laquelle on a moins, c'est-à-dire beaucoup de capitaines d'industrie, des gens qui ont créé leur entreprise, Elon Musk par exemple, mais pas forcément le seul, hein, il y a plein d'autres qui sont sur ce schéma-là, se disent je suis la voix de l'entreprise, et donc si je ne suis pas là, il n'y a pas de raison de faire un networking.
Exactement, exactement, exactement. Alors que moi, je fais rire tout le monde parce que je dis, moi, on me dit, tu sais vachement bien déléguer, je dis, ouais, c'est mon rôle.
Exactement, hein, et
C'est
c'est
mon
moins
rôle
fatigant.
de déléguer. C'est mon métier de déléguer. C'est mon métier de déléguer. C'est pas de tout faire. Et quand tu délègues, tu motives. Et quand tu délègues avec un projet clair, tu rends optimiste les gens. Et quand tu vois que les gens ont réussi, mais tu ne peux pas t'imaginer depuis 2 jours la motivation qu'il y a, les WhatsApp, ça n'arrête pas, quoi. ma secrétaire générale me dit, il faudrait les calmer. Je dis, jamais de la vie. Je ne vais pas les calmer. Je vais au contraire les attister.
Exactement. Et tu
Elle me dit
favorises
ça part tous
l'engagement.
les côtés. Ben, je sais que ça part tous les côtés. On a le temps de remettre de l'ordre. Mais pour l'instant, laissons ce dynamisme, laissons cette victoire, laissons cette satisfaction remplir les cœurs de tout le monde, quoi. Et c'est
Est-ce
ça qui me fait.
qu'aujourd'hui, dans toute cette démarche-là, il existe des indicateurs? Je dis ça parce que souvent dans les entreprises, ils aiment bien avoir sur le corporate branding l'image de marque que l'entreprise essaie de porter à l'extérieur. Et être une entreprise qui porte le bonheur ou des gens heureux au sein de l'entreprise, bah, ça favorise le recrutement, par exemple.
Alors, je vais t'en parler. Il y a des chiffres d'Harvard sur 2000, plus de 2000 entreprises qui disent que quand on met l'optimisme au cœur de son management, en moyenne, on augmente les ventes de 37%. En moyenne.
D'accord.
Voilà. Et ça, je le vérifie. Je vais vérifier chaque fois que j'ai pris l'entreprise, chaque fois que j'ai pris une association. J'ai toujours fait progresser soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de membres d'une association. Je reviens sur l'association des conférenciers. Quand je l'ai pris, on était 60 il y a un an, on est 130 aujourd'hui, on va passer 150.
D'accord.
Quand on faisait des manifestations, on était 40, on arrive à faire 300. Voilà. C'est-à-dire que ça, la façon de voir le monde, la façon de voir le monde, la façon d'être acteur du monde, la façon de savoir remercier, récompenser, célébrer les victoires, fait qu'en sorte, effectivement, tu sais, l'entreprise, je dis que l'entreprise, c'est une somme d'ambassadeurs.
Très
C'est
bien.
une somme d'ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ils sont soit négatifs, soit positifs. Donc, ça veut dire que si je rends ces ambassadeurs positifs, optimistes, c'est une force énorme. Bon, si j'ai 100 salariés, par exemple, si je les manage tellement mal, que quand il y a un repas entre amis, quand on me demande qu'est-ce que tu fais avec ton job, bah, écoute, on est entre amis, on pourrait parler d'autre chose que le job. Ça y est, le gars, il est ambassadeur. On sait qu'il travaille dans l'entreprise Dupont, et bien, on sait que ça se passe mal. Bien. Si au contraire, alors dis-moi, tu travailles chez Dupont, comment ça se passe? C'est génial, c'est super, on a eu ce projet, etc. Je suis un ambassadeur. Donc le patron qui a compris que, bien sûr qu'il faut des forces commerciales, il en faut, mais s'il rend tous ses collaborateurs, ses collaborateurs, les ambassadeurs optimistes, positifs de l'entreprise, mais non seulement les gens vont avoir envie d'acheter, donc je fais monter le chiffre d'affaires, ou des personnes vont avoir envie de recruter, donc je fais venir des nouveaux talents, ou si je suis dans une association, ils vont avoir envie d'adhérer. Voilà, parce
Exactement.
que on rend ces ambassadeurs. Et il faut comprendre que le patron, il n'est pas là pour. Il est là pour être devant, pour mettre le cap, mais il n'est pas là pour toujours parler à la place des gens, quoi.
Et il est là aussi pour porter un pilotage, ce qui est aussi pas facile, parce que si on parle aussi de l'optimisme des patrons, ça nécessite des compétences qui sont extraordinaires bien souvent, plus la boîte est importante, avec des négociations pour justement bah, avoir les
Ben oui.
actionnaires, etc., voire même savoir si lui va rester à ce poste. Donc il y a des vraies interrogations. Et donc aussi, est-ce que c'est intéressant de former spécifiquement les dirigeants à l'optimisme?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, ce serait. Alors, j'ai pas créé, je t'avoue que je n'ai pas créé de formation sur l'optimisme, parce que moi, je suis un chef d'entreprise avant tout. Je suis pas, je fais quelques formations sur le management. Enfin, je fais des formations sur le management, sur les stratégies, parce que j'ai été professeur en stratégie, où je mets de l'optimisme dedans, forcément. Mais
Mais
j'ai pas
ça pourrait être
une.
aussi l'occasion, alors toi ou quelqu'un d'autre, il y a tous ceux
Oui,
qui
pourquoi
représentent
pas?
ton travail, etc., mais de retravailler sur de la pédagogie et la
Oui.
taxonomie, donc les
Oui,
contenus
oui,
à
oui,
donner,
oui,
donc ce
oui.
qui change beaucoup avec la montée en puissance des soft skills, etc., mais aussi la façon de relaisser la main autour de l'optimisme, des groupes de parole, enfin tout est bon à creuser, mais ça veut dire que retravailler sur le contenu et la pédagogie pour que des écoles qui existent, qui fonctionnent très bien, puissent s'adapter justement à l'optimisme.
Oh, je pense, si tu veux, que ça doit être fait dans certaines écoles. Je le crois. Je t'avoue que je ne vais pas aller rechercher ça. Hein?
Ça les fait
C'est-à-dire que
parfois
moi,
excitant.
l'optimisme, quand je fais des formations sur le management, parce que moi, je sais manager, hein, je mets de l'optimisme dedans. Mais je n'ai pas créé
Bien
un
sûr.
cursus pur d'optimisme. C'est-à-dire que dans le management, c'est comment je parle aux gens, quelles sont les techniques de motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. Tout ça, je le mets au cœur de l'optimisme. Mais je n'ai pas créé quelque chose qui s'appelle comment être optimiste dans son entreprise, quoi, tu vois. Ça serait intéressant de le faire.
Bien sûr, avec différents courants, parce que ce que tu fais toi, c'est à ton style, et donc c'est complètement légitime, parce que d'abord, tu as l'expérience qui est la tienne, et puis dans d'autres personnes qui sont très différentes, avec des parcours très que toi, tu ne pourrais pas réutiliser, et inversement, dans ces cas, c'est ça, cette industrialisation, ça serait intéressant de montrer des observatoires de l'optimisme.
Alors là, si tu veux, je pourrais très bien l'écrire avec quelqu'un dont c'est le métier d'écrire des formations. Et là, je pourrais lui donner beaucoup de clés, par contre.
Ah,
Hein.
très bien.
Ça,
Donc,
là, je vais te
l'appel est
gêner.
lancé, mais
Après,
vraiment.
à l'appel est lancé. Après, il faut les classer, il faut voilà, les industrialiser. Mais les clés, j'en ai, hein, parce que depuis 40 ans que je gère des boîtes, ça va.
Alors, si un
L'appel est lancé.
responsable.
L'appel, si quelqu'un veut, un formateur, une école veut que je l'aide à monter un programme comme ça sera avec plaisir.
Exactement. Et je pense qu'il y aurait une vraie résonance dans les entreprises. Si un responsable de formation veut se lancer, demain, il trouve que c'est génial. Enfin, demain après l'émission. Dans ces cas-là, il commence par quoi?
Je vais commencer par m'appeler. Non,
Oui,
je blague.
déjà. Non, déjà, c'est pas bête. Ouais. Mais après, pour de vrai.
Ben, s'il veut écrire, il faut qu'il commence par comprendre ce qu'est l'optimisme et pas ce que croient beaucoup de gens. L'optimisme, c'est un choix, ce n'est pas une conséquence. Et ça démarre par ça. Ça démarre par ça. C'est-à-dire que, OK, c'est un choix, quelle définition de l'optimisme, comment je le crée, comment je le mets, et après, comment je le décline. Comment je
Exactement.
le décline avec les. Parce que l'optimisme, ça permet d'améliorer la motivation, ça permet d'améliorer l'énergie, ça permet d'améliorer l'action, ça donne de meilleurs résultats.
Donc, est-ce que c'est
Moi,
de la compréhension?
j'ai des chiffres de tout ça sur les
Alors,
résultats,
tu
sur tout
dirais
ça.
ça, et donc c'est ce que tu avais déjà dit au début, est-ce que c'est de la compréhension, donc de la connaissance, ou est-ce que c'est de la pratique?
Moi, je dirais. Ah, c'est un peu
Ben
la
c'est,
poulette.
en fin
C'est
d'émission,
un peu
c'est
la
toujours comme
poulette,
ça. Ah
ça.
ouais,
Hein?
d'accord.
C'est pas la connaissance. Sans la connaissance, on peut pratiquer, c'est ce que j'ai fait.
Exactement.
D'accord? Et avec la connaissance, tu peux ne pas pratiquer aussi.
Absolument.
Mais bon, c'est mieux si tu as la connaissance et tu mets la pratique et après, c'est itératif. C'est comment ma pratique
Bien
améliore
sûr.
ma connaissance et ma connaissance améliore la pratique, quoi.
Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que justement, ça permet à chacun de se lancer avec ses degrés de liberté. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de degrés de liberté et ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas être ambassadeurs optimistes. Et puis petit à petit, d'être militant de l'optimisme. Et donc, ça, c'est un beau projet qu'on donne. Si on veut te joindre, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, on se dit c'est génial, puisque tu l'as dit qu'on pouvait t'appeler, c'est quoi ton média pour t'appeler?
Alors, juste avant de donner mon média, tout ça, sache qu'il y a une Ligue d'optimistes qui existe en France. Hein.
Ah, très bien.
Et voilà, donc les personnes vont aller sur Google, elles voient la Ligue des optimistes, elles peuvent adhérer, c'est assez sympa. C'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. On reçoit les informations, c'est sympa. Après, si on va aller plus loin, les gens peuvent aller sur mon LinkedIn, Jean-Philippe Ackermann, ou sur mon site, jean-philippeackermann.com. Voilà, ou après, mais là-dessus, c'est plus facile d'aller soit sur LinkedIn, soit sur mon site jean-philippeackermann.com, parce qu'après, il y a toutes mes coordonnées qui sont là.
Et ça permet de donner des messages privés pour ceux qui ne veulent
Voilà, c'est
pas de
ça.
suite être
Voilà.
en
Voilà.
visibilité. Donc très très
Voilà.
bien. Merci beaucoup.
Merci à
Jean-Philippe
toi, Stéphane.
Ackermann.
C'était très, très intéressant. J'ai encore beaucoup de choses à dire, tu sais.
Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, et c'est pour ça que les gens peuvent te continuer avec toi s'ils le désirent. En tout cas, c'était vraiment très intéressant pour rendre opérationnelle cette démarche-là, qui souvent intellectuellement est partagée par tout le monde, mais dont on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, tu as donné des pistes. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Bye bye.
Merci Stéphane, à bientôt, au revoir.